avait d'autres chats à fouetter. Tu étais dans le secteur de Jean Talon, de ce que je comprends.
Exact.
Et puis, ben voilà, tu as eu une campagne électorale assez intense, avec des émotions. Et d'ailleurs, on s'était croisés, sais-tu? On était à Val-Bélair, hein, quand
oui,
on s'était
exact.
Croisés.
Je pense que c'était à l'annonce de M. Lachance.
De Stéphane Lachance.
Exact, dans
voilà.
La pelleterie.
On s'était croisés là, puis bref, il y avait du monde là que j'avais pas vu depuis un super, un bon bout de temps.
Exact.
Fait que c'est la dernière fois que je t'ai vu, puis là, je te vois, tu es avec nous autres ce soir, donc merci d'être là.
Ben, merci à toi.
Parle-moi un peu, parce que j'aimerais ça te faire découvrir au grand complet par les auditeurs de Boulevard, parce que je vais te réinviter dans les prochaines semaines, sans l'ombre d'un doute. Sébastien Clavet, c'est qui? Pourquoi il fait de la politique? Pourquoi il tripe sa politique?
Ah, mon Dieu, ça date... Ben là, écoute, ça va révéler mon âge un peu, mais ça date de quand même très longtemps, on va dire depuis 20-25 ans, peut-être même plus. Ça date du secondaire.
Ouais.
Et puis...
Dès le secondaire, tu t'intéressais à la politique.
Oui, et puis...
Donc, tu n'avais pas beaucoup d'amis.
étonnamment, j'en avais quand même... j'avais une bonne gang. Et puis, ouais. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis évidemment, quand on est jeune, on a une vision du monde qui est différente. Plus on vieillit, plus on avance en âge, plus on connaît les choses, on change d'allégeance politique. Donc, quand j'étais jeune, j'avais une certaine allégeance.
Un communiste!
pas ce point-là, mais presque. Écoute,
qui disait ça, hein? C'est normal d'être communiste à 20 ans, mais à 30 ans, 40 ans, ça commence à être une maladie mentale.
Churchill, il dit, je ne sais pas si lui qui l'a sorti, mais il a dit, à 20 ans, si vous n'êtes pas communiste, vous n'avez pas de cœur. Puis à 40 ans, si vous êtes communiste, vous n'avez pas de tête.
C'est tellement vrai.
Ben écoute, parce que quand tu viens qu'à payer des taxes, puis à te rendre compte que finalement, ce que tu payes, tu n'en as peut-être pas tout le temps pour ton argent, tu te dis, ouais. C'est pas ce qui se passe. Là. Alors, quand tu entends, quand d'un côté, tu fais ça, puis de l'autre côté, tu vois les gens qui disent, ben ça, il faudrait que ce soit gratuit, ça, soit gratuit, ça, ouais, mais gratuit, ça n'existe pas.
Non.
Il y a tout le temps quelqu'un qui paye quelque part.
Je me l'ai encore fait dire tantôt par texto, oui, mais notre système de santé est gratuit.
Non,
un peu, là,
gratuit.
On donne 1 milliard par semaine à ce système de santé-là.
Les médecins sont payés, les infirmières sont payées. Il n'y a personne qui travaille gratuitement. Alors, quand j'étais jeune, c'est ça. Alors, on parle d'un peu avant le référendum de 95, donc date.
OK.
Je veux dire, même Mario Dumont le disait, là, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui sont à droite économiquement, qui ont voté oui au référendum de 95.
Ouais.
Alors, c'était toute une époque. C'était il y avait beaucoup d'effervescence. Hein? Tu sais, les 2-3 années avant 95, il y a pas ça 95. Alors, au niveau politique, puis juste animation dans la société, là, ça a comme rassemblé beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait comme un projet de société que d'un bord comme de l'autre, même les gens qui étaient pour le non, ils disaient, ben il y avait quand même un sens de « on s'occupe de la nation ». Et puis depuis ce temps-là, d'année en année, on a perdu ça. Maintenant, si tu fais un vox pop et tu demandes aux gens sur le bord de la rue, le Québec, ça s'en va où? C'est quoi nos grandes idées?
On n'a aucun projet de société à court, moyen et long terme.
Et voilà, je dis pas de ressusciter la souveraineté, c'est pas ça que je dis du tout.
Ouais.
Mais il y avait ça dans le temps. Il y avait ce projet-là, il y avait une direction claire. Et il y avait des gens à la tête de ça qui savaient compter puis qui connaissaient leur travail. Maintenant, il y a encore des gens qui savent faire leur travail, mais il n'y a plus de projet. Alors, on ne sait pas trop. On gère à la petite semaine. Mais c'est ça. Alors, ça date vraiment de 25-30 ans, cette histoire-là.
Mais qui t'inspirait à l'époque, au secondaire, pour qu'un gars comme toi puisse s'intéresser à la politique? C'était René Lévesque qui était au pouvoir en 84?
Non, parce que...
84,
moi, dans les années 80, j'étais jeune là, quand même. Là, trop jeune pour, mettons, apprécier... Le premier de mémoire là, que je me rappelle là, d'avoir écouté à la télévision, puis regardé, puis m'intéresser, c'est Robert Bourassa.
OK.
Je veux pas dire que c'était une vedette, mais je veux dire, c'est le premier que je me dis, OK, lui, je me rappelle là, à la télévision, Reagan pour les Américains.
Mais c'était une vedette, puis quand tu regardes des anciennes vidéos de lui sur YouTube, là, il y avait une façon de s'exprimer qui était très claire, et tout le monde, monsieur et madame, tout le monde pouvait comprendre ce qu'il y avait à dire à chaque fois.
Ben, si, je veux dire... Pour plusieurs, c'était drabe, parce qu'il y avait une façon de parler, il y avait une cadence de parler qui était peut-être endormante, mais c'était tout un monsieur.
Ouais.
Alors, mais on le voyait dans la rue sans qu'il parle, puis on pouvait dire, lui, il a de l'air d'un chef d'État. Il se présentait comme un chef d'État, il avait la carrure d'un chef d'État. Quand je parle de la carrure, c'est pas physique, c'est mental. Alors, parce que René Lévesque n'était pas grand, mais il avait la carrure d'un chef d'État. Et puis ça, on retrouve moins ça aujourd'hui. On est complètement au bout du spectre. Penses-tu vraiment que Robert Bourassa aurait participé à des émissions de télé-réalité?
Non, jamais.
Où il y a toutes sortes de jeux qui se font un peu farfelus. Là, que... Je veux dire, ces jeux-là, c'est correct en tant que tel. pour des gens qui sont, je ne sais pas, mais comédiens, qui sont humoristes, mm-hmm. acteurs, etc. Mais je sais que ça fait vieux jeu, mon affaire, mais je suis vieux, donc ça, je suis vieux
mais
jeu.
Quand tu jases avec des individus, tu sais, hier, je jasais avec Patrick R. Bourgeois, ouais. qui a été longtemps dans le mouvement indépendantiste, puis lui, il côtoyait des individus comme Parizeau, tu sais, Jacques exact. Parizeau, Pierre Falardeau. Ouais. Ces individus-là, tu sais, c'était des gens qui ne pensaient que la politique, tu sais, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis jamais que tu aurais pu leur faire des niaiseries.
T'sais. Non. Mais tu vois, là, tu parles de Pierre Falardeau, puis tu me fais je vais en parler deux secondes après, mais peut-être que Parizeau, dans le temps, c'est quelqu'un que je trouvais qui était assez impressionnant parce que, bon, le monsieur contribué à la construction du Québec moderne avec, ouais. En créant tout ce qui s'appelle là, au niveau là, des pensions, des RRQ, et ainsi de suite. Alors, c'est un monsieur qui savait compter. Mm-hmm. Et puis, je me rappellerai toujours d'une entrevue qu'il avait faite, je pense que c'était à Radio-Canada, je ne me trompe pas. Et puis, c'était juste avant un peu le référendum. Puis, il y avait des grandes craintes que le dollar canadien baisse trop si le oui passait. Alors, si le dollar canadien baissait trop, il y aurait eu des conséquences économiques graves.
Ouais.
Et puis, lui, il avait expliqué, puis moi, dans le temps, je ne connaissais pas ça, mais je trouvais ça intéressant parce que personne ne nous en avait parlé. On n'apprenait pas l'économie hein, au secondaire, premièrement.
On avait économie familiale. Là. Ouais, il nous faisait comment... coûte des étuis.
Oh, écoute des étuis, ça, c'est correct, mais apprendre à faire notre rapport d'impôt, ça, c'était pas important.
Es-tu fou, toi?
Comment les crédits fonctionnent, etc. Bref.
Ben, voyons donc. Ouais. Un budget?
Et ouais, un budget, ouais, c'est quoi,
ça ne servira vraiment à rien. Ça.
Ça, c'est pas utile.
Mais par contre, réparer ton vieux bas de laine, ça, c'est important.
Ouais, apprendre là, qu'il y a je ne sais pas combien de dieux dans je ne sais pas quelle religion, là ça va t'aider dans la vie. Ça. Écoute, et puis là, il disait, il répondait, plus j'y vois de mémoire comme ça, là, c'est pas
Parizeau,
verbatim.
Ouais.
Parizeau, il disait, inquiétez-vous pas, on a acheté de la devise. On n'a pas acheté de la devise, mais on a les moyens d'acheter de la devise. Puis il n'avait pas expliqué exactement combien il y avait d'argent. Ça, après, ça a été dit qu'il avait sécurisé des montants assez faramineux dans les milliards à New York, surtout principalement, que si le oui passait et que si le dollar baissait trop, cet argent-là était prêt à New York pour acheter du dollar canadien pour le soutenir pour pas qu'il baisse trop. Mais c'était plusieurs milliards. Et il faut se rappeler qu'en 1995, le budget du Québec n'est pas équilibré, mais pas du tout, là. Alors, ça prenait quelqu'un qui avait une grande puissance intellectuelle pour aller à New York et dire « vous allez nous sécuriser de l'argent pour qu'on puisse soutenir le dollar canadien en tant que province pour pas que ça baisse trop.
Ouais. »
C'est par la suite avec Lucien Bouchard qu'on a commencé à faire du grand ménage au niveau de l'économie du Québec pour avoir des budgets équilibrés.
Mm-hmm.
C'est là qu'on commence d'ailleurs les premières réformes en santé, qu'on a mis beaucoup d'infirmières à la porte de la réforme Rochon,
avec
etc.
Pauline!
Oui, c'est ça. Fait que,
Popo! Puis tu sais quoi? Moi, ce qui me flabbergasse dans l'histoire de Pauline Marois, quand elle a décidé de, avec son équipe, bien entendu, elle l'a pas décidé de seule, mais de mettre des gens en pré-retraite, en retraite, tu sais, on s'en est jamais remis de
non.
ça, Sébastien.
Non, jamais.
Et quelques années plus tard, je pense que c'est 20 ans ou 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, elle a dit « si c'était à refaire, je le referais ».
Écoute, là, je vais jouer à l'avocat du diable. Ça, c'est un des rôles que j'aime au bout. Là,
ben oui, je le sais, t'es là pour m'ostiner tout le temps.
Écoute, premièrement, malgré que je suis pas péquiste, je suis pas souverainiste, j'ai un grand respect pour Mme Marois parce que je trouve qu'elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Mais quand elle dit ça, est-ce qu'elle le dit parce que c'est d'un point de vue économique ou elle le dit d'un point de vue de la santé? Si sa réponse, c'est au niveau de la santé, ça n'a pas de sens. Si sa réponse est au niveau économique, je le comprends. Parce que, comme Lucien Bouchard avait expliqué à l'époque, le Québec se trouvait dans une position où ce qui devait être décoté au niveau là, des prêts, mm-hmm. au niveau des institutions de cotation. Et puis, Moody's et compagnie avaient dit, si vous assainissez pas vos finances de façon sérieuse, on va vous décoter de façon sérieuse et là, emprunter pour payer notre épicerie du gouvernement, ça aurait coûté beaucoup plus cher.
Okay. Alors, j'ai toujours priorisé la santé des gens, Sébastien. Je peux pas croire que des politiciens pourraient prioriser l'économie. T'sais, on l'a vu pendant la COVID. Là, ils ont tout sacré l'économie du Québec à terre. Ils ont fait faire des faillites à des entreprises, des gens qui ont eu des problématiques par rapport à ça. Mais la santé, ils continuent d'investir en santé sans aucun problème, mais ils ont fermé l'économie pendant quelques temps. Là. Ils s'en sont sacrés.
Je suis complètement d'accord avec toi. L'idée en arrière de ça, là, pour finir le point avec Marois, pour continuer avec ce que tu dis, c'est qu'un État, peu importe où ce que tu es dans le monde, un État a une capacité d'emprunter éternelle.
Mm-hmm.
Il faut qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent pour que tu sois plus capable d'emprunter ou que tu es obligé d'emprunter à des niveaux que là finalement, ton économie ne fonctionne plus. Exact. Il y en a des pays qui font faillite, mais les pays restent là. Je veux dire, même un pays qui fait faillite technique, il reste là, il repart après. Les citoyens qui sont en place, oui, ils vont souffrir d'une manière ou d'une autre, mais les services de base continuent. Je veux dire, même quand la Grèce fait faillite, les hôpitaux fonctionnent. Ils n'arrêtent pas du jour au lendemain de dire « c'est fini, il n'y en a plus ». Alors, ici au Québec, quand on dit « on va sauver Pierre pour sauver… on va sacrifier Pierre pour sauver Paul », c'est plus ou moins vrai. Alors, si tu veux sauver la santé, puis tu dis « ben là, va falloir emprunter plus », ben tu peux couper dans les dépenses ailleurs. Mais le gouvernement ici ne fait jamais ça.
Jamais.
Mais la raison pourquoi il ne le fait pas, c'est parce que les citoyens ne l'exigent pas. Les élus n'arrivent pas là par la chance, là. Qu'on soit d'accord avec Trudeau, qui soit premier ministre, ou Legault, qui soit premier ministre, ils sont pas arrivés là parce qu'ils ont gagné un concours de circonstances. Ils ont été élus. Puis pour être élu, ça prend des gens qui les mettent là. Alors, les gens, s'ils sont pas... Je répète souvent les paroles sages de Jacques Godbout, qui est un écrivain québécois, là, qui est maintenant dans les 80 passés, mais qui a écrit le livre « Salut Galarneau », qui est encore étudié dans plusieurs cégeps, et etc. Puis il se fait poser la question en 2015 par Martineau, Richard Martineau, dans l'émission « Les francs-tireurs ». Il dit « Comment ça se fait qu'au Québec, quand il y a des grands dossiers comme la santé, attendre 18 heures à l'urgence, ça n'a pas de bon sens, mourir à l'urgence en attente, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi les gens ne se lèvent pas, un peu comme les gilets jaunes en France ou dans d'autres pays où est-ce que les gens sont un peu plus solidaires au niveau de dire « là, c'est assez, on est vraiment tanné ». Et du tac au tac, Jacques Godbout répond « Bien, c'est parce que les gens sont satisfaits. » Si les gens n'étaient pas réellement satisfaits, ils se leveraient. Je veux dire, quand tu es pris dans le coin du mur, puis que là, tu as le choix entre manger ou mourir, je veux dire, tu bouges, là.
Oui. Donc, selon toi, on ne souffre pas assez pour demander à ce qu'il y ait un changement. Parce que, tu sais, tantôt, je faisais... je sais pas si tu m'as vu passer sur les réseaux sociaux, là, ce matin, mais j'ai sorti tous les articles de 2010 ouais. jusqu'à 2021. Ouais. Là, mois de décembre, mois de janvier, c'était quoi les taux d'occupation dans les hôpitaux? Et à chaque année, c'est toujours la même affaire. Ouais. On dépasse les taux d'occupation. Puis ça m'a fait bien rire parce qu'on parlait beaucoup dans ce temps-là pendant la pandémie. Puis, tu sais, de voir que François Legault dit « Ah, ben là, si ça continue de bien aller, là, pendant le temps des fêtes, là, on va vous donner des journées de lousse là, pour que vous puissiez voir vos amis, vos parents, votre famille, vos enfants. » Et moi, tu sais, nobody là, qui était en CHSLD à faire du bénévolat, là, j'ai été voir sur Google à ce moment-là, puis j'avais sorti les stats. Je me disais, mais comment il peut penser que ça va aller bien pendant le temps des fêtes, alors que dans les 10 dernières années avant, pendant le temps des fêtes, les taux d'occupation explose, tu sais. Et finalement, il continuait d'aller dans ce sens-là. Puis quelques jours plus tard, il était obligé de dire « Ben, regarde, on vous l'avait promis, mais finalement, on peut pas le faire. » C'était tellement prévisible. Tu disais « T'es peu, là. » Cet gars-là, il est supposé être entouré de gens pas mal plus intelligents que le petit clin que je suis, là. Puis ils ont pas eu le réflexe de retourner par les années passées. Moi, j'y crois pas, mais j'y crois pas une minute, là. Ils doivent avoir pensé à une autre stratégie. Peut-être on va leur donner de l'espoir pendant un certain temps. Je sais pas. Je me pose toujours ces questions-là.
Je voudrais pas faire un commentaire cynique, mais en vieillissant, là, il y a quelque chose qui m'habite de plus en plus, et c'est la surestimation de la compétence des gouvernements. Généralement, quand j'étais jeune, là, je me disais, tu travailles au gouvernement, ouais, t'as peu, c'est sérieux, c'est pas n'importe qui va là. Pas juste des élus, là, mais je veux dire des fonctionnaires, des gens qui sont gestionnaires, des gens qui gèrent, des gens qui sont pas nécessairement élus, mais, tu sais, exemple, les gens qui travaillent au ministère du Revenu, je me disais, ben, il faut que ces gens-là savent compter, c'est les revenus. Les gens qui travaillent au ministère des Finances, c'est des gens sérieux, ils connaissent les mathématiques, etc. Alors, il y en a des gens compétents, bien sûr, mais la surestimation générale, je parlerai pas d'intelligence, je vais parler de compétences. Des gens intelligents, ça, il y en a en masse. Mais entre l'intelligence et la compétence, il y a des marches.
Fait que c'est le principe de Peter qui s'applique à chaque gouvernement qui
possible.
Arrive en place.
Oui, c'est possible. Écoute, il y a des... Tu sais, comme M. Dubé, là, pour pas le nommer, là, mais à la santé, là, c'est quelqu'un d'intelligent.
Oui, c'est un gars qui est sur les chiffres. Là. C'est un comptable.
Bon, mais sans nécessairement... C'est une question rhétorique. Est-ce que c'est quelqu'un de compétent dans son rôle de ministre de la Santé?
Il a l'air... Selon ce qu'on voit, par contre, quand on discute avec les gens qui sont à l'intérieur du système de la santé, il n'y a absolument rien qui a changé depuis l'arrivée au pouvoir de la Coalition Avenir Québec et depuis que Christian Dubé est ministre de la Santé. Ah, rien qui a changé.
L'année prochaine, tu vas pouvoir faire un autre post sur les réseaux sociaux avec un autre article qui va dire
ça va être 2000, la même affaire. Mais les gens, tu sais, il y a des gens qui souffrent, là. Tu sais, ça revient à ce que je te disais. Parce
ben
que
oui, il y a des gens qui souffrent.
C'est la raison pour laquelle je te parlais du taux d'occupation. Tu sais, tu me dis, ouais, mais les gens, tu sais, selon Godbout, les gens ne souffrent pas assez, ils sont bien, sont d'accord avec tout ce qui se passe.
Je dis pas qu'ils sont d'accord. Mais ce que Godbout disait, puis je le défends pas, je fais juste répéter ce que lui, en tant que monsieur de 80 ans passé, puis qui a une vision de la société qui est différente de la nôtre, là, qui n'a pas le même âge, lui, il voit ça comme ça. À ce moment-là, quand on voit qu'il y a 530 000 personnes qui votent pour le PCQ, il y a au moins ces 530 000-là qui ont le goût que ça change. Il y a un autre 500 000 qui a voté pour le Parti libéral. Les autres aussi ont le goût que ça change.
Ouais.
Mais la quantité nécessaire de gens insatisfaits pour être capable de changer des choses de façon, je veux pas dire drastique, mais conséquente, n'est pas encore assez suffisante.
Moi, j'ai l'impression que les gens, tu sais, quand il y a eu la bataille, c'est pleine.
Oui.
À un moment donné, les Français, il fallait qu'ils quittent. Là.
Oui.
Je sais que c'est dur à dire, mais ils ont perdu.
Exact.
Et ceux qui sont partis, c'est les officiers, les gens de tête, les cérébraux qui sont partis. Puis ceux qui ont resté ici, c'était les gens qui élevaient du bétail. Et on a comme toujours appris depuis ce temps-là à être docile, à écouter les gens qui étaient là, qui nous dirigeaient. Puis j'ai l'impression qu'on n'est jamais sorti de ça. Quand Geneviève Guilbeault a sorti le mot docile,
ça
m'a rentré dedans sacrément.
Ça a frappé l'imaginaire.
La dernière affaire qui va m'arriver dans la vie, c'est d'être docile. Si tu me dis, Yann, faut que tu fasses ça, puis je sais pertinemment que ça n'a aucun maudit bon sens, je ne le ferai pas. Tu vas me mettre en prison.
Écoute, là, je veux pas faire là, mon intellectuel, mais j'ai pas le choix de t'en parler deux
Allons-y.
Secondes. Est-ce que tu connais Étienne de la Boétie?
Boisy?
De la Boétie.
Mais ça s'écrit comment?
B-O-E-T-I-E. Boétie. De la Boétie.
Boétie, OK.
Boétie, OK. Bon, mais c'est pas des S, là, mais c'est un T. Ça se prononce Boétie. Alors, Étienne de la Boétie, c'est un écrivain qui a écrit un truc qui s'appelle Discours sur la servitude volontaire.
Mm-hmm. Ah, voilà.
Il l'a écrit il y a 500 ans.
Exact.
Et quand tu lis c'est très court, hein? C'est je sais pas, une trentaine de pages maximum, ouais. Même pas, là. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, moi, écoute, j'ai lu ça sur le tard. Ça, là, ça devrait être donné direct en secondaire 4, 5, là. Quand tu lis ça, là, tu dis, mon Dieu, ça a été écrit hier. Et la servitude volontaire, c'est quoi? C'est les gens qui, de façon, on se le dit carrément, volontaire, se plient au pouvoir et aux décisions des gens qui sont en position de prendre des décisions. Alors, quand on entend Mme Guilbeault dire « docile », oui, ça frappe, mais c'est pas d'hier. Je dis pas que les gens sont tous dociles, c'est pas ça la question.
Ouais.
C'est que de façon générale, les gens ont des vies. T'sais, mettons, tu as des enfants, faut t'aller au soccer. L'un, il va au soccer, l'autre va à tel autre sport.
Ouais.
Le matin, tu as de la job. En fin de semaine, tu as, je sais pas, un mariage. Là, puis en plus, il faudrait demander aux gens de s'occuper de façon intense de ce qui se passe en politique pour qu'il n'y en ait pas une qui passe. Tu vois, on peut pas exiger ça des gens.
Non,
la vie va tellement vite aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi, ça, t'es bombardé à tous les jours. Puis là, ben, c'est facile de perdre le fil. Donc, le réflexe des gens, c'est de dire, ben on va faire confiance aux gens qui sont là. Ils sont censés être compétents.
Fait qu'on souffre pas assez.
Non. Ben, en fait, si on se compare aux autres pays, non. Pour être encore une fois dans mon rôle de l'avocat du diable, tu sais, sur les 193 membres de l'ONU, là, il y en a une maudite gang qui sont en dessous de nous autres. Là.
Ouais.
Je parle pas juste du Québec, mais le Canada, pas juste le Canada, mais le Québec en général. Je veux dire, dans les faits, là, si on veut être très, très, très honnête, là, les gens qui se lèvent le matin quand vous allez travailler, oui, il y a du trafic, ainsi de suite, mais je veux dire, au niveau de la violence ici, le danger de vous faire kidnapper, de vous faire... De mourir par une bombe...
Un peu plus rond qu'ailleurs,
Même si vous... Écoutez, là, vous regardez ce qui se passe à Chicago, aux États-Unis, là,
ouais.
qu'on croirait que c'est censé être une belle ville sécuritaire et ainsi de suite. C'est environ 60 à 70 altercations par arme à feu là, par semaine. Et là-dessus, il y a plusieurs décès. Là. Et là-dessus, il y a des enfants qui meurent par des balles perdues. À New York, maintenant, c'est rendu quasiment une fois par semaine où il y a des gens qui se font pas pousser sur les rames de métro quand les métros arrivent. C'est carrément des meurtres. Là. C'est pas tout qui meurt, mais... Alors, tu sais, ce genre de choses-là, et si on vit pas ça, là, tu dis, ouais, mais c'est un peu extrême, ton affaire. Oui, mais dans l'ensemble, là, si la santé allait bien au Québec, admettons. Quand je dis allait bien, là, on va dire attendre 4 heures à l'urgence, au lieu de 18.
Toi, t'as fait ta revue de journaux. Je sais que t'as fait ta revue de journaux, parce que 18, c'est le bon chiffre. Là. Ce calcul-là du 18 heures d'attente à l'urgence, là, tu sais comment c'est calculé?
Ben là, c'est pas pareil partout. Là.
C'est partout à grandeur du Québec. Les stats qu'ils donnent, puis les journalistes ne rapportent jamais l'autre stats parce que c'est des gros paresseux et des gros lâches. Là. Le 18 heures d'attente à l'urgence, là, ton attente dans la salle n'est pas calculée. C'est le 18 heures d'attente à partir du moment où tu mets le
peteux
sur une civière.
Okay, ouais.
Et que tu vas monter sur les étages.
Okay.
C'est ça, le 18 heures. Mais si tu as attendu 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures avant dans la salle d'attente parce que les médecins n'étaient pas disponibles et il y avait beaucoup de gens en face de toi, ça, c'est jamais comptabilisé. Fait que ton 18 heures se transforme un peu plus en 24 heures. 24 heures a pas mal plus de sens là, pour ce qui est de l'attente dans les gens qui vont faire tout au complet. Là. L'attente dans la salle, puis après ça, ils vont transférer d'un porte, ils vont s'asseoir le péteux sur la civière, puis là, ils vont monter ces étages. C'est des heures en sacrifice.
Et après ça, si tu veux voir un spécialiste, c'est des mois. Des années, des fois.
Ouais.
Tu veux voir,
mais je pense pas que je me remette, moi, des décisions qui ont été prises pendant la pandémie. Tu sais, je pense à la dame. Tu sais, t'es un peu comme moi, t'es un peu émotif. Là.
La dame au Saguenay, tu vas me dire.
Je pense à la dame du Saguenay.
Ah ouais, c'est
qui, elle était sur le point de mourir, puis on lui donnait pas de permission spéciale. Non, fallait qu'elle meure dans le stationnement, sacrement, pour qu'elle puisse rencontrer les membres de sa famille, ses enfants, puis ses
petits-enfants. En tout respect pour la famille, là, je les juge pas du tout, là, mais j'aurais jamais été capable de laisser passer ça s'arrêter ma mère.
J'ai le cœur à l'envers. Mais il n'y avait pas le choix. T'sais, il se serait fait arrêter, c'est bol, Sébastien.
Ah, écoute, là, je vais te dire une affaire, puis encore là, je ne veux pas juger, je critique pas les gens qui ont vécu ça, parce qu'on ne peut pas se mettre dans leur souliers, mais je te donne un autre exemple. Il y a plusieurs années, je pense que c'est vers la fin des années 90, il y avait une histoire à la télévision qui était épouvantable, c'est à Saguenay encore, pour faire... C'était une madame qui était à l'urgence, elle était avec son enfant, qui n'était pas nouveau-né, mais tu sais, il y avait peut-être un an, là, environ, mm-hmm. un an, peut-être un an et demi, elle était très, très, très jeune. Elle va à l'urgence, elle voit bien que son bébé, ça ne fit pas, ça ne marche pas, elle ne sait pas ce qui se passe, elle va à l'urgence. Elle attend. Puis là, on parle d'il y a 20 ans au moins, minimum, 22, 23 ans. Et puis là, à force d'attendre, elle voit bien que son bébé dégrade. Puis les infirmiers, infirmières sur place disent non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Puis là, à un moment donné, les instincts de la mère ont pris le dessus. Puis elle s'est fâchée, elle dit là, non, il se passe de quoi, c'est sûr que ça ne marche pas. Elle a décidé de péter une coche, elle a décidé de faire le bacon dans l'urgence. On a entendu parler dans les nouvelles, dans les semaines qui ont suivi. Elle a crié, elle a brassé, tellement que là, ils ont dit, si vous ne calmez pas, madame, c'est la police qu'on appelle. Elle a dit, bien, appelez-la, la police, ça va aider à accélérer, parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec mon enfant, je suis sûr qu'il est en train de mourir. Elle sait que, je pense, c'est un pédiatre ou un médecin, tu sais, qui n'était pas dans l'urgence, mm-hmm. mais qui finissait son chiffre, qui passait par là en sortant, puis il dit, voyons, c'est quoi qui se passe ici, là? Fait qu'elle dit, moi, là, je suis ici, là, puis mettons, je ne sais pas combien d'heures, là, je sais qu'on en fait quelque chose qui n'est pas correct. Au triage, ils me disent que c'est correct. Puis finalement, le pédiatre a regardé ça et il dit, OK, telle affaire. Ils ont été obligés de descendre à Sainte-Justine avec un convoi de police pour en urgence parce que l'hélicoptère n'était pas disponible.
L'enfant est en train de crever.
Puis quand ils sont arrivés, ils l'ont sauvé. Mais quand ils sont arrivés, ils ont dit, c'était le temps. La morale de l'histoire, c'est que si vous êtes à l'urgence et que vous croyez qu'il se passe réellement quelque chose, que vous êtes en train de mourir ou que votre enfant ou votre conjoint est en train de s'aggraver, pétez votre coche. Je dis pas de blesser du monde, là, mais vous pouvez gesticuler, vous pouvez lever le ton, pas envers les employés, mais ouais. Vous pouvez brasser jusqu'à temps que la police arrive. Si la police arrive, ils vont dire quoi qu'il se passe. Oui, mais là, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas une question d'être poli ou impoli. C'est pas une question de désobéissance civile ou pas. Mm-hmm. T'es à l'urgence. Il y en a qui y vont pour pas grand-chose, mais il y en a qui y vont pour quelque chose.
Ouais. Tu sais, moi, j'ai réussi à respecter tout ce que le gouvernement m'a demandé pendant ce temps-là. C'est bien correct, mais tu sais, mes enfants sont jeunes. Hein? Mais mm-hmm. souviens-toi, tu sais, qu'ils nous ont dit, ben pour le temps des fêtes, vous allez devoir choisir entre ouais. un ou l'autre de vos enfants. Uh-huh. Sébastien, j'aurais jamais accepté ça. Jamais. Puis je peux pas croire qu'il y a des gens au Québec qui ont accepté de pas voir leurs petits-enfants. Puis tu sais quoi? Il
ouais.
y a des gens au Québec qui ont accepté qui n'ont pas accepté de voir leurs enfants et leurs petits-enfants parce qu'ils étaient terrorisés par ce qui se passait. Moi, tu sais, j'ai 85 ans, là, je sais qu'il ne m'en reste pas long à vivre, tu ne m'empêcheras pas de voir mes enfants.
C'est bien évident, mais moi, la question plus fondamentale que je me demande, c'est comment ça se fait qu'on écoute toujours ce que le gouvernement nous dit? Je ne dis pas de ne pas respecter la loi, mais quand, exemple, ils nous disent, là, vous allez baisser le thermostat dans vos maisons pour sauver de l'électricité, vous allez prendre vos douches à deux pour sauver de l'eau chaude, vous allez partir vos sécheuses la nuit pour sauver de l'électricité.
Non, ça n'a pas de bon sens.
Moi, je n'estime même pas, je ne les écoute pas. Je vais partir la sécheuse quand je veux. Ouais. Je vais prendre ma douche tout seul.
Mais c'est comme ça que tu... Ah ouais, tout le temps?
Ouais.
Mais c'est comme ça que tu vas garder la tête tranquille. Moi, c'est exactement la même affaire que toi par rapport à ça.
Je veux dire...
La COVID, j'ai écouté. Mais pour ce qui est de gérer mon hydro, là, t'es un peu au pire, je paierai à surprime, là, mais mon lave-vaisselle ne fonctionnera pas à 2 heures du matin.
Ça s'en vient, là, le tarif là, qui va être modulé en fonction de la journée, puis de l'heure, puis de la consommation. Mais à date, c'est pas encore comme ça. Mais on sait que c'est en revers là. Mais la servitude volontaire, c'est ce qu'il disait il y a 500 ans. Vous n'êtes pas obligé d'abdiquer votre intelligence parce que le gouvernement vous a demandé une affaire qui n'a pas de bon sens. Je veux dire, s'il dit, ben là, si vous faites ça et vous écoutez pas, il va y avoir des amendes, là, je comprends. Mais quand c'est des affaires que vous êtes chez vous et que le gouvernement n'est pas là, écoute, c'est Trudeau père qui le disait, hein. Lui, il disait ce qui se passe dans la chambre à coucher, c'est pas de nos affaires, mais dans l'ensemble, ce qui se passe chez vous, là, c'est pas des affaires du gouvernement à personne.
Exact.
Alors, tu fais ce que tu veux dans le respect de la loi le plus possible, mais t'es pas obligé de tout écouter.
Hey, on revient un peu parce qu'on est deux passionnés. Là. T'es au secondaire, puis yes. Tu regardais les ministres de l'époque qui s'adressaient à leur population. Il y en a que tu respectais énormément. Tu nous en as parlé un peu.
Oui.
Donc, c'est là à peu près que t'as commencé à t'intéresser à la politique. Après ça, ça a été quoi tes premiers moves?
Écoute, Mes premiers mots, c'était, mon Dieu, c'est qu'après, un coup que tu t'intéresses à la politique, puis tu commences à découvrir ça, là, après ça, tu élargis un peu tes horizons. Et le premier, moi, qui m'a allumé, en guillemets, c'est Michel Chartrand. Je pense qu'il en a allumé plus qu'un, là. Écoute, bien que
la façon... Lui, quand tu l'aimes ou tu ne l'aimais pas, tu l'écoutais, là, c'était un personnage en soi. Là.
Ah non, t'es hypnotisé écouter un gars de même. Ben oui. Il y en a plein encore des entrevues sur Internet de lui. Tu écoutes ça, puis c'est... Malheureusement, tu écoutes certaines entrevues, puis mon Dieu, ça n'a pas changé. S'il serait ici aujourd'hui, il serait... Mais écoute, tu écoutais ce monsieur-là, puis moi, ce qui me passionnait là, de ce monsieur-là, puis de Pierre Falardeau qu'on parlait tout à l'heure, c'est que c'était des gens qui étaient non seulement passionnés, mais qui étaient inflexibles dans leurs convictions.
Oui.
Puis là, tu disais... Moi, je me disais, moi, je ne suis pas nécessairement syndicaliste. Je comprends que le syndicat, dans l'histoire, l'humanité a eu des... C'est évidemment qu'il y a eu du bon, mais aujourd'hui, c'est différent, puis bon. Mais sans être syndicaliste, tu ne peux pas écouter Michel Chartrand puis pas admirer ce qu'il fait, puis les convictions. Il est allé en prison pour ses convictions, pour défendre les travailleurs, etc. Pierre Falardeau, je ne suis pas souverainiste. Mais tu n'as pas le choix d'écouter ce monsieur-là puis respecter ses convictions. Tu te dis, ouais, lui, là, il ne changera pas la semaine prochaine. Là. Moi, je trouvais ça merveilleux puis je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la société.
Hier, on s'est rappelé l'épisode avec Claude Ryan quand M. Ryan est décédé.
Oui, oui.
Pierre Falardeau.
Ah, oui, c'est... Mais tu sais, Falardeau, c'est un pamphlétiste. Donc, ouais. Il était là pour provoquer aussi. Là.
Ah ouais.
Mais le gars était d'une intelligence... incroyable.
Mais il était tout le temps tout croche. Moi, c'est ce qui m'impressionnait de lui. Là. Il était tout le temps assis tout croche, tout le temps à l'air désinvolte.
Habillé comme un bûcheron.
La cigarette, les dents, là, on va se dire ses dents. Ah, ouais, il avait de la misère avec ses dents. Là. Mais il sortait des affaires qui étaient incroyables. Là.
Mais écoute, non seulement il était d'une intelligence rarissime, mais tu sais, même avec son air de gars là, tout croche, là, je veux dire, il y a une famille,
ouais.
Il y a des beaux enfants, il y a une belle femme.
Ouais.
Je veux dire, c'était un phénomène qui aujourd'hui n'est pas remplacé, ben, qui était irremplaçable, mais il n'y a personne qui lui a succédé pour dire, tu sais, aujourd'hui, combien de fois ça m'est arrivé dans les dernières années de penser, j'aimerais ça que Falardeau nous dise son opinion aujourd'hui. Tu sais, le monsieur Arthur est parti. C'est un peu aussi, tu sais, André Arthur, c'était un autre phénomène. On pouvait être en des... Comme n'importe quel autre humain, ces gens-là font des dérapages de temps en temps. Moi, Claude Ryan, on en rit, mais quand tu es dans la famille de Claude Ryan, tu ris moins par contre.
Ah,
le gars vient de mourir, là, je veux dire, le corps est encore chaud. Là, mais, il traite de. Bon. Alors, mais.
C'est quoi, il avait dit crève, salopard?
C'était-tu enfant de chienne ou. Ouais, c'était grave, là, oui, c'était pesant. Là.
Je vais te le trouver.
Mais tout ça pour dire que. Quand tu regardes la vie de ces gens-là, il faut que tu regardes dans l'ensemble. Tu sais, tu peux pas juste dire « Ouais, mais juste cet événement-là fait que ça discrédite tout le reste. » Alors moi, quand j'étais jeune, il y a des politiciens, je commence à essayer de comprendre comment l'État fonctionne. Ensuite, je pivote un peu parce que ces gens-là sont très, très, très attractifs. Je veux dire, ce que Falardeau a à dire, ce que Michel Chartrand a à dire, etc. Et puis là, ben, je pars travailler à l'extérieur du Québec parce que dans la fin des années 90, aujourd'hui, c'est dur à s'imaginer, mais il n'y a pas d'ouvrage. Alors, même moi, mes amis qui sortaient de l'université, ils avaient de la misère à avoir des emplois. Donc, ils ont travaillé en Ontario, travaillé aux États-Unis. Et quand j'ai travaillé aux États-Unis, ben, je travaillais à Washington. Et puis, ben là, tu baignes dans la politique américaine à 100% parce que là, t'es dans la capitale même de la politique, du plus gros système politique au monde. Alors là, la piqûre te prend assez vite. Là. Parce que quand tu travailles à Washington puis que tu passes tes journées à passer en avant du Capitole, du Lincoln Memorial, de la Maison-Blanche, là, c'est impressionnant. Là. C'est un peu comme arriver à Hollywood, là, puis si tu vois les studios, là, t'as pas le choix de dire « je suis impressionné ».
Ouais.
Alors, puis nous, on a travaillé pendant quand même plusieurs mois là, et puis je connaissais pas tant de choses que ça sur la politique américaine. Évidemment, je suivais ça un peu comme tout le monde. C'est l'époque de Bill Clinton, c'est l'époque de Monica Lewinsky. Puis à partir de là, ben j'ai jamais lâché. Comme plusieurs politiciens vont te le dire ici au Québec, la politique, c'est une drogue. Et c'est difficile de s'en départir. Puis c'est pour ça, ben souvent, qu'on voit des politiciens qui quittent très, 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 très tard. Aux États-Unis, même, il y a des gens, des politiciens qui sont à 86, 87 ans, là, qui sont sénateurs ou représentants. Puis là, tu dis, mais voyons, mais à cet âge-là, ils sont millionnaires, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, pourquoi ils n'arrêtent pas? Ben c'est parce que c'est trop motivant. Je veux dire, ça, au niveau cérébral, là, je veux dire, il n'y a rien qui accote ça. Là. Je me demande s'il y a quelque chose qui peut dépasser l'excitation de travailler en politique puis de faire avancer les choses puis de changer des lois, puis de voter des lois. Alors, quand tu peins cette piqûre-là puis que tu fais abstraction du fait que la politique, c'est pas les échanges de coups de gueule au Salon Bleu, que c'est beaucoup plus que ça, là, tu vois qu'il y a quelque chose là. Puis au final, c'est plate à dire, mais encore une fois, pour ramener Churchill, il disait, ben, notre système, là, c'est le meilleur des pires systèmes. Alors, s'il y a un meilleur système, amenez-nous-le, on va le prendre. Mais historiquement, quand on le regarde et on recule le plus loin possible dans l'histoire de l'humanité, ben, il n'y a pas mieux que ce qu'on a là présentement. Fait que même avec tous ces problèmes, c'est encore le meilleur système.
Combien de fois Québec Soldat, dans ses débuts, nous parlait du Venezuela? Ils l'ont comme enlevé après un certain temps. Ils ont comme pris d'autres modèles.
Je veux dire, là, on parle souvent du socialisme, puis on parle rarement du communisme, là, mais partout où ce que tu essayes le socialisme dans l'histoire, ça ne fonctionne pas. Au début, ça peut fonctionner. Le début peut être un certain temps, mais évidemment, inévitablement, ça vient que ça lâche. On ne fera pas un cours d'histoire sur le socialisme, là, mais je veux dire, si vous y croyez, ben tant mieux pour vous, mais je vous inviterai à lire un ou deux livres d'histoire.
Hey Sébastien, je te pose une question, mon ami, puis je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se démêler avec nous autres ce soir concernant cette question-là. C'est quoi la droite? C'est quoi la gauche? Quelle est la différence entre la droite et la gauche américaine, canadienne, puis européenne? Là, je viens de te poser une question qui te met dans la marde.
Ah, pas du tout, c'est une question que j'adore. Écoute, essentiellement, la droite et la gauche, là, ça vient, si je ne me trompe pas, ça vient de Westminster en Angleterre. Alors, le Parlement anglais, c'est le palais de Westminster. Et de la manière dont nous, notre système politique québécois et canadien, même, est grandement inspiré de ça. Mm-hmm. Et puis, la division interne de la salle où ce que les députés siègent, c'est divisé en banquettes. Ils se font face. C'est pas un hémicycle, c'est pas un demi-cercle ou un trois-quarts. C'est divisé en deux. Et essentiellement, le gouvernement siégeait toujours à droite et l'opposition siégeait toujours à gauche. Alors, à un moment donné, ça a venu que définir un peu aussi la mentalité politique. Alors, étant donné que le gouvernement était toujours à droite physiquement dans la salle, les idées plus conservatrices, économiques, de bien gérer des... On parle d'il y a longtemps quand même, là, quand les gouvernements géraient les budgets de façon compétente. Et puis les gens de la gauche étaient plus, non, mais il faudrait plus aider l'opposition. Ouais. Ils étaient plus, il faut aider les pauvres, il faut aider pour assez... Parce qu'eux autres, ils voulaient gagner des points politiquement pour être élus à la prochaine élection.
Ouais.
Alors, ça part de là.
Ça, c'était à la création.
Okay. À la création. Donc, la droite, la gauche, là, ça vient vraiment du principe physique que dans une Assemblée nationale ou à Westminster, c'était divisé en deux, puis ils se font face, puis le gouvernement est à droite. Puis évidemment, à partir... Quand on dit à droite ou à gauche physiquement, c'est à partir de la chaise du président de l'Assemblée ou du palais de Westminster. Et puis, quand on parle au niveau idéologique, bien aujourd'hui, essentiellement, la définition la plus simple de droite-gauche, c'est que les gens à droite, on va dire économique, OK? Parce que
c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Quand on parle de la population à Québec, quand on parle des radios de Québec, peut-être un peu plus à droite, centre-droit, mais on parle vraiment juste de la droite économique.
La droite, là, c'est moins de gouvernement, moins de réglementation, moins de gouvernement qui vous dit quoi faire. La gauche, c'est plus de gouvernement, plus de réglementation et plus de programmes pour aider X, Y, Z. Alors, évidemment, on peut pas complètement être dans un bord ou de l'autre. C'est pour ça que là, les gens vont dire centre-droit, centre-gauche. Mais on peut pas juste dire on va...
On peut être de la droite puis aider les gens aussi.
Oui, exact. Mais je veux dire, tu peux être conservateur au niveau économique puis dire les pauvres dans la rue, on peut pas les laisser là.
Voilà.
C'est tout simple. Là. Mais on vit dans une société qui, en plus, c'est exacerbé par les réseaux sociaux, mais depuis longtemps, on vit dans une société où il faut mettre des étiquettes pour que les gens puissent comprendre rapidement. Alors, en mettant une étiquette, là, OK, lui est à gauche, lui est à droite, elle est à gauche, lui parle anglais, lui parle pas anglais, peu importe. Mais là, les gens sont capables de dire rapidement parce que le cerveau étant que tu veux comprendre rapidement, saisir pour pouvoir avancer dans ton cheminement mental. Alors, en ayant des étiquettes, ça t'aide. Mais c'est un problème. Parce que tu dis quelqu'un qui est à droite, ça ne veut pas dire qu'il est à droite surtout. Quelqu'un qui est à gauche, il n'est pas à gauche surtout. Mm-hmm. Je veux dire, même Québec solidaire en a des bonnes idées. Je veux dire, est-ce qu'elles sont applicables dans notre système à nous, avec les ministères qu'on a, etc.? Ça, c'est une autre chose. Parce qu'entre le plan et l'appliquer, tu comprendras qu'il y a plusieurs marches.
Mais la gauche au Québec a toujours été considérée comme étant plus progressiste que la droite?
C'est qu'il faut ramener ça surtout à notre vieux fond catholique. Tu sais, là, ça fait depuis les années 60 là, que les églises que les gens sont sortis des églises. Mettons là, la création de l'État, là, on va dire 62, 63, Jean Lesage. En même temps que le Québec se crée un État, les églises se vident. Et puis, à partir de là, le pouvoir du clergé là, commence à baisser de façon très, très rapide. L'émancipation des femmes commence. Il y a les grands mouvements civiques aux États-Unis. Et puis, Mais ce vieux fond catholique-là, c'était que quelqu'un qui a de l'argent, c'est mal. Tu rentreras pas au paradis si t'es riche, comprends-tu? Puis ça nous a resté pendant longtemps.
Alors que le Vatican est bourré d'or.
Je veux dire, le pape se promène avec une canne en or. Là, je veux dire, il n'y a rien de pire que... Je dis pas qu'ils n'ont rien fait de bon. Là, on ne tombera pas dans cette discussion-là, mais c'est, ça a toujours resté... Moi, écoute... Là,
les religieux, c'est un peu comme les policiers.
Ben, ils essayaient de te vendre quelque chose.
Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
Ben, c'est... On le voit aujourd'hui là, avec les 152 scandales d'abus sexuels, là, puis ouais. Ainsi de suite, on se dit, ouais, ben, finalement, ils ont des choses à se reprocher. Mais on ne tombe pas dans le dedans parce qu'il y a quand même des choses qui ont fait de bon. Puis les sœurs aussi ont fait des bonnes choses, quand ils tenaient les hôpitaux puis les écoles. Alors, faut... encore là, on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Il faut, faut donner, rendre à César ce qui revient à César. Mais c'est ça. Donc, notre vieux fonds catholique, il y a encore des gens aujourd'hui qui n'affichent pas leur richesse. Je ne dis pas là, de montrer, hey, moi, j'ai de l'argent. Non, mais quelqu'un qui voudrait, mettons, se payer une grosse maison ou une automobile de luxe, puis qui va se garder une gêne parce qu'il dit, ouais, mais là, si je mets un char de 100 000 dans le cours ou 200 000 dans le cours, là, les voisins vont voir, puis là, ben là, etc. Ben... Alors, c'est encore mal vu faire de l'argent. Okay. Pas mal vu, ouais. Mais il y a un tabou encore là-dessus.
Pis ça, les premiers voyages aux États-Unis, c'est désarmant de voir que le propriétaire de la business parque son char directement en face de la business versus au Québec où le propriétaire va dire, t'as peu, moi, quand je vais arriver dans l'entreprise, si j'arrive avec ce char-là, c'est sûr et certain que je vais avoir des problèmes avec mes employés. Ils vont me dire que je fais de l'argent sur leur dos et tout ça. Fait que je vais prendre mon char à ma femme, deuxième char, ouais, puis je vais laisser mon char à ma femme, je vais avoir moins de problèmes.
Écoute, c'est tellement vrai, là, c'est carrément l'inverse. Aux États-Unis, là, surtout dans les années 50, après la guerre, là, le statut pour démontrer que tu avais atteint un certain statut social, c'était d'avoir un Cadillac de l'année dans le cours. Alors, plus les années avancent, l'icône change. C'est pas nécessairement un Cadillac, c'est d'autres choses, etc. Mais ça montrait, c'était pas pour montrer aux autres, moi, je suis meilleur que vous autres. Non, c'est juste pour montrer, regardez, on vit dans un pays où c'est possible.
Ouais.
Ici, là, vous venez aux États-Unis, les règles sont faites que n'importe qui arrive avec 50 cents dans ses poches peut avoir une Cadillac dans la cour s'il travaille fort. Et puis ça, cette mentalité-là, c'est ce qui fait que c'est eux autres la première économie dans le monde.
American Dream.
Je dis pas qu'ils ont tout de bon, là. Il y a en masse de négatifs aux États-Unis. Encore une fois, on fera pas des généralités. Mais ici, c'est complètement l'inverse. Je veux dire, essaie de te partir en affaires au Québec. Quand j'étais directeur de la Chambre de commerce à Montmagny, on voyait souvent les statistiques passer. Puis quand tu calculais les 50 États américains plus les 10 provinces canadiennes, moi, c'était dans les années 2010, 2011, 2012, dans ce coin-là. Au niveau de l'entrepreneuriat, on était 59e sur 60. Se partir en affaires ici, c'est de la paperasse, c'est long. Il y a beaucoup de choses à payer. Tu sais, encore aujourd'hui, il y a une taxe sur la masse salariale. Savais-tu ça? Qu'une entreprise, là, il va avoir, on va dire des chiffres faciles, là. Il y a 10 employés, puis ils gagnent tous 50 000 pièces chaque. Ça fait 500 000 de masse salariale. Le gouvernement va te taxer là-dessus. Alors, quel est l'avantage pour l'employeur d'augmenter ton salaire? S'il augmente ton salaire, il augmente aussi les taxes qu'il a payées sur la masse salariale. Je veux dire, c'est complètement illogique. C'est complètement, je veux dire, on est dans la Twilight Zone. On dirait ça c'est pas tous les États américains qui fonctionnent pareil, mais la plupart, on leur dirait ça, puis ils n'ont pas de bon sens.
Oui. Tu sais, aujourd'hui, je parlais avec une dame qui est comme responsable d'une association de restaurateurs, puis elle réagissait au fait que le ministre Boulet veut arriver avec un projet de loi pour que les enfants au travail soient plus encadrés. Mm-hmm. Et là, lui, il se base sur absolument rien, si ce n'est que les statistiques de la CNSST qui mentionnent qu'il y a plus d'accidents impliquant des enfants qu'avant. Mais c'est sûr, on manque d'employés partout. Donc, nécessairement, on accepte des gens qui sont sans expérience. Maintenant, on les fait travailler. On s'entend qu'un accident de travail, c'est un accident de travail de trop. Mais le portrait de tes accidentés va changer à partir du moment où tu rajeunis tes employés. Là. Mais on dirait que les politiciens prennent juste la statistique qui fait son affaire. Puis là, il veut partir un projet de loi alors que c'est un non-problème. Il n'y a aucune statistique qui mentionne que les employeurs retiennent les enfants pour pas qu'ils aillent à l'école. Ça n'existe pas.
Non.
Ça n'existe pas. Donc là, lui, il va partir un projet de loi. Ça va lui faire de quoi gosser pendant les prochains mois. Il va arriver avec ça. Il va être ben fier. Puis concrètement, ce que ça va donner, c'est que les employeurs vont embaucher pareil des enfants. Puis ça va être en dessous de la table.
Tu sais, là, les mèmes, là, c'est populaire parce que ça dit beaucoup de choses en une image. Et il y en a une, moi, particulièrement, qui m'a frappé il y a plusieurs années. Puis on voyait, c'était le Capitole aux États-Unis. Et en dessous, c'était écrit « Nos solutions sont la source de vos problèmes ». Je m'étais dit, mon Dieu, ouais, c'est assez fort, ça, en fait. Là, là on pourrait mettre le monsieur Boulay avec son histoire, comme tu viens de dire, là, dans cette catégorie-là.
Ouais.
Mais de façon générale, on n'a pas besoin de reculer si loin que ça. Recule 10 ans, recule 20 ans, recule 40 ans, si tu veux, peu importe, ça n'a pas d'importance, le résultat va être pareil. Plus tu recules dans le temps, mettons, on va prendre le Québec, moins il y a de réglementation, moins il y a de règles, Puis mieux ça fonctionne. Plus tu avances dans le temps, on rajoute des règles, on rajoute des réglementations, des règlements, des ci, des ça, on complexifie la plomberie. Moi, j'étudie en électricité, puis les gars de la plomberie étaient à côté, puis ils nous disaient souvent ça. Plus la plomberie est compliquée, plus elle est facile à boucher. Alors, plus tu recules dans le temps, là, je ne dis pas de reculer au temps de Mathusalem, là, tu recules juste en 1990. Il y avait beaucoup moins de réglementations, puis tu n'attendais pas 18 heures à l'urgence. Là, tu rajoutes des règlements, tu rajoutes des charges sur les employés qui n'avaient pas à faire avant au niveau de, je sais pas, tenir les statistiques, etc., un paquet d'affaires. Alors, plus le gouvernement s'ingère dans les affaires du peuple, plus ça complexifie la chose, plus la plomberie devient compliquée, plus c'est facile de la boucher.
Oui, puis plus on perd des droits, là.
Écoute.
Des droits qu'on considérait comme acquis.
C'est pas compliqué. On n'invente rien, c'est pas de la futurologie. Vous avez juste regardé la France, exemple, où notre système d'administration publique est très, très, très inspiré. Notre gouvernement est inspiré du système anglais, mais au niveau de l'administration, c'est plus le système français, napoléonien, etc. Et quand tu regardes la France présentement, c'est sûr, aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont 66 millions, on est presque 9, là, bientôt, 8,5. Là. Mais eux autres, là, c'est le Capharnaüm. Et puis... C'est drôle parce que là, on est dans le temps des fêtes et ça va dater l'interview d'aujourd'hui, mais dans le temps des fêtes, à Ciné-Cadeau, ils passent toujours les 12 travaux de l'Astérix.
500 000 personnes qui regardent ça chaque année. C'est l'émission la plus écoutée.
Et le 12 travaux d'Astérix, il y a toujours une scène mémorable où ce que Astérix doit trouver le formulaire A38,
ouais.
Qui est introuvable, puis c'est une maison de fou pour le trouver. Mais ça, c'est inspiré directement de l'administration française. Qui était compliqué à l'époque où ils ont fait ce film-là dans les années 60. Et nous autres, on s'en va vers là tranquillement, on le voit.
Ouais.
Il y a des choses qui fonctionnaient bien avant qui ne fonctionnent plus bien. Je veux dire, quand le ministre de la Santé dit « si vous êtes malade, faites le 8-1-1 », je veux dire, c'est une blague ou il est sérieux?
Ouais.
C'est-tu de la compétence, ça, ou c'est de l'incompétence?
Moi, c'est quand mon premier ministre me dit « faut que vous sauviez le système de santé ». J'étais persuadé que c'est le système de santé qu'elle allait me sauver un jour, mais visiblement, c'est pas ça. Hey, le temps avance, cher ami.
Ben oui.
Je savais qu'on allait manquer de temps. Mais on va faire une pause. On va essayer d'en faire le plus possible après la pause.
Yes.
Puis sinon, ben, ce sera Sébastien Clavet part 1.
Yes.
Puis dans quelques semaines, on fera un Sébastien Clavet part 2. Donc, on quitte pour quelques minutes, puis on revient tout de suite.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission, présenté par la Commère Magasin Général, la meilleure place pour vos cadeaux et bonne Noël. Jusqu'aux fêtes, ouvert 7 jours sur 7 et tous les soirs de semaine. Lacommère.ca.
District 7 Productions présente Sarah Dufour et sa tournée du temps des fêtes.
C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe au lac Saint-Jean.
Le mercredi 28 décembre à l'Impérial Vert. Ça va être tout qu'un party avec Sarah Dufour et ses invités. Écoutez Boulevard 102.1 pour courir la chance de gagner vos billets. La tournée du temps des fêtes de Sarah Dufour, le 28 décembre. Billets en vente à la billetterie ou sur imperialbelle.com.
Passe-temps 3000, l'incontournable pour vos achats du temps des fêtes. N'attendez pas, trouvez le jouet parfait dès maintenant. Passe-temps 3000, rue Soumande, passe-temps3000.com.
Fiestra et son univers inattendu sera de retour du 16 au 18 décembre à la place de Paris, au cœur du quartier Petit Champlain. Fiestra, c'est un événement unique et gratuit qui s'amuse à conjuguer des disciplines d'univers totalement différents afin de créer des performances improbables. Du 16 au 18 décembre, Fiestra vous surprendra avec un jumelage entre des cracheurs de feu, artistes du tricot, contorsionnistes, danseurs, chanteurs, ainsi que le populaire millimétrique. Émerveillement, surprise et fascination seront au rendez-vous à Fiestra. Découvrez la programmation au fiestra.ca.
Besoin d'un nouvel escalier? Que vous soyez du style moderne ou classique, profitez d'un grand choix d'escaliers, garde-corps et d'essence de bois. Pour vos petits et grands projets, escalierdelachaudière.com. En ascension depuis plus de 30 ans.
Les Aliments Couture, c'est ceux qui fabriquent les fameux cretons couture depuis plus de 80 ans avec la même recette d'antan. Ben, ils vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous rappellent que vous pouvez acheter leurs cretons et leurs sauces à spag dans tous les bons supermarchés de Québec. Les cretons couture, synonyme de qualité et de bon goût.
Ferblanterie Larro DC, entrepreneur en ventilation, recherche activement des ferblantiers pour joindre son équipe d'installateurs. Ferblanterie Larro DC embauche aussi des journaliers pour ses usines à Saint-Augustin et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pour postuler, info à commercial ferblanterielarodc.com.
Pour un temps des fêtes vraiment festif, retrouvez-vous au Belga Resto Bar. Découvrez nos nombreuses bières de la microbrasserie de l'île d'Orléans et profitez de notre promo des fêtes. Moules et frites à volonté pour deux et une bouteille de vin pour 75 $. Belga Resto Bar, 680 Grande Allée Est.
Avec les virus respiratoires, il y a des gens qui tombent malades. Des gens qui tombent malades. Et des gens qui tombent très malade.
Certains tombent de plus haut que d'autres quand ils tombent malades. Porter un masque, c'est un geste simple qui agit comme filet de sécurité pour tous. Pour vous protéger et protéger les autres des virus qui circulent, mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Un message du gouvernement du Québec.
La Fondation du CHU de Québec soutient le plus grand centre de soins spécialisés au Québec, le CHU de Québec Université Laval, pour une meilleure qualité de service, une contribution à la recherche, de l'enseignement et de l'acquisition de matériel technologique. Donnez à la Fondation du CHU de Québec. fondationduchudequebec.org.
Une escapade en amoureux, une journée détente, un souper entre amis, la forfaiterie, c'est tout ça et encore plus. Laissez-nous vous aider à trouver un cadeau unique en un rien de temps parmi nos milliers de forfaits disponibles. Visitez l'une de nos trois succursales à Québec ou sur laforfaiterie.com.
Vous voulez du mégaphone à rabais pour les fêtes? Profitez du Mégaparc en promotion en combinaison à d'autres activités comme le mini-golf fluo, la glissade 1884 et B-Fly, la voilière à papillons. Le tout à 40 % de rabais. Détails au méga-parc.com.
Chez Ralbok, on a eu une pas pire année 2022. On s'est refait une petite beauté, puis on a changé les dessins sur nos canettes. C'est beau en maudit. Tu montreras ça à tes matantes à Noël. S'ils sont comme les nôtres, ben, ils vont capoter ben raide. Puis on avait plus de temps libre au travers de tout ça, fait qu'on a ouvert la buvette Ralbok à l'Apocatière. Une méchante belle place, 20 lignes de bière, puis du gros fun en vue. On te conseille fortement de venir essayer ça. Puis ça reste que le temps des fêtes, ben, c'est fait pour fêter en gang. Puis nous autres, c'est ça qui nous fait triper dans la vie. Fait qu'on s'en craque une à ta santé, mon chum. Ralbok, c'est le fun, puis c'est bon.
Nancy et l'équipe de direction de BD remercient ses employés et leur expriment sa sincère gratitude et fierté pour tous les efforts déployés afin de répondre aux besoins de nos clients. La plus douce et reposante période des fêtes à tous.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier via Capital. Jusqu'au 31 décembre, confiez la vente de votre maison à Équipe Laberge et un don de 500 $ sera offert à un organisme de votre choix. Certaines conditions s'appliquent. SimonLaberge.com.
Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Portneuf, situé à Pont-Rouge. Une centaine d'unités et plusieurs portes sont présentement disponibles. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-entrepôt-portneuf.com
418-873-5778.
Recevez la famille avec un repas traditionnel des fêtes sans tracas grâce à la boîte des fêtes de Normandin. Pâté à l'oie, pâté à la viande, ragoût de boulettes, ketchup aux fruits, soupe dessert et bien plus pour 8 à 10 invités. Commandez au restaurantnormandin.com. Normandin, ça fait du bien.
Clinique Proderm, vos soins médico-esthétiques personnalisés.
Afin de réduire l'apparence de vos rides sans injection, Proderm propose des alternatives efficaces comme le lifting sans chirurgie.
Demandez votre consultation personnalisée à Lévis, Saint-Georges et Clinique Proderm.com.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de shorts, puis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir. Le soir.
Là, sur les ondes de Trou de Vent, mon invité ce soir, Sébastien Clavet, c'est un de mes collaborateurs, un gars qui était avec moi dans mon ancienne vie, un gars qui trippe sur la politique. C'est un passionné, c'est un émotif. C'est le fun de l'entendre jaser à chacune de ses présences. Puis je vous le dis, vous allez l'entendre dans les prochaines semaines, les prochains mois sur les ondes de Boulevard. Je vous en passe un papier. Hey, Sébastien, on parlait de la gauche et la droite. Est-ce qu'il reste encore des différences à faire? Parce que souvent, on entend parler de la droite religieuse, de la droite... de la gauche religieuse, c'est rare qu'on entend parler de ça. Ça n'existe pas.
Non, pas au Québec. Peut-être dans l'Ouest canadien un petit peu, mais c'est surtout américain.
Mais y a-t-il une droite religieuse vraiment au Québec?
Non. Non, pas vraiment. Non plus, ça a peut-être déjà existé, là, mais je veux dire, la question de religion, à part les scandales, là, je veux dire, c'est complètement... Okay. Ça fait plus partie de nos vies.
Quand il y a eu l'aide médicale à mourir, il y a des gens avec des croix là, qui étaient sur les plaines d'Abraham, là, qui étaient qui voulaient lutter contre l'aide médicale à mourir en disant que c'était pas l'œuvre de Dieu, patati et patata. Eux, est-ce qu'ils peuvent être considérés comme la droite économique? La droite religieuse, c'est-à-dire?
Chacun a le droit à son opinion. Je respecte l'opinion des gens, mais je veux dire, c'est une très, très petite partie de la population, même inconséquente. Alors, à ce moment-là, tu pourrais considérer ça comme ça, mais je veux dire, c'est combien de gens? C'est une couple de centaines de personnes? Des milliers, à la limite? Je veux dire, la liste électorale, là, c'est 4,6 millions.
Ouais.
Alors, ils ont le droit à leur opinion, mais ça fait c'est inconséquent dans le grand calcul. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui dirait on devrait enlever l'aide médicale à mourir maintenant qu'on l'a.
Okay. Mais pourquoi, peut-être en raison du fait qu'on est au Québec, là, toi, tu regardes beaucoup ce qui se passe ailleurs, mais pourquoi, quand on parle de quelque chose de négatif, on dit souvent « Ah, ça, c'est de la droite. C'est de la droite. C'est de la droite. »
Comme je te disais tantôt, la droite a initialement été associée au gouvernement. Et peu importe dans quel état tu te trouves, je ne dirais pas tous les états, mais il y a toujours une méfiance naturelle de l'humain de se méfier de celui qui te dirige. Tu sais, avant d'avoir des systèmes politiques démocratiques, c'était le roi qui décidait. Alors, tu sais, les gens étaient tout le temps un peu craintifs ou du moins une bonne dose de méfiance envers celui ou celle qui allait dire « Hey, tu vas faire ci ou tu vas faire ça de telle manière ou de telle manière.
Ouais. »
Alors, étant donné que la droite s'est toujours été identifiée comme l'État, ceux qui gouvernent, ben c'est cette méfiance de ce vieux fond-là qui est correct, en fin de compte. C'est naturel de se méfier, mais sans être dans la méfiance, juste être dans la critique. Tu sais, avoir un esprit critique puis dire « Attends un peu, là, le ministre vient de me dire qu'il faut que je baisse le chauffage chez nous. » C'est pas parce que le gouvernement le dit qu'automatiquement c'est estampillé, c'est la voix de Dieu, merci bonsoir.
C'est de loin la comparaison la plus idiote que j'ai entendue dans le dernier mois. Là. Fitzgibbon qui dit ben écoutez, moi, là, quand je suis allé en Chine, on rentrait dans les immeubles et il faisait froid. T'sais, comparer la Chine.
Tant mieux pour les Chinois.
Comparer la Chine.
On n'est pas en Chine.
Au Québec, c'était du grand n'importe quoi.
Pourquoi il n'y a pas un média qui s'est levé debout, hein, mais M. Fitzgibbon, on n'est pas en Chine. Puis deuxièmement, vous n'êtes pas ministre de la Chine.
Mais non, mais c'est parce que tu comprends pas. Tu sais comment ça fonctionne la game, là. Si les journalistes au Québec sont durs envers les politiciens qui sont au pouvoir, je t'annonce qu'ils n'auront pas d'entrevue one-on-one avec ces individus-là. Uh-huh. Je t'annonce que le téléphone, le boss va appeler, il va dire « Seb, t'as été dur un peu avec le PM, on avait une entrevue demain à télé, puis là, ben, il vient de canceller ça. Toi, tu vas te sentir cheap, puis là, tu vas comme dire « Moi, tu gardais ma job, moi, là. » C'est pour ça, en fait. Tu sais, le Canadien, ce qu'il faisait il y a quelques années, là, si t'étais méchant envers un joueur de hockey du Canadien, ils te mettaient sur la blacklist. Ben, qui tu penses? T'sais, les gens des coms connaissent un peu la patente. Là. Ils se sont inspirés de ce que le Canadien de Montréal faisait. Pas mal certain que ça vient de là.
Il y a 20 ans, là...
Si t'es méchant avec mon parti, tu m'auras pas.
Il y a 20 ans, les gens n'avaient pas une aussi grande méfiance envers les médias qu'aujourd'hui. Puis c'est pas les réseaux sociaux qui ont exacerbé ça. C'est le fait que le rôle des médias, qui était le quatrième pouvoir depuis très longtemps... Tu sais, il y a trois pouvoirs. Hein. Pour être dans un État démocratique, là, pour expliquer aux gens, là, peut-être, là, c'est qu'il faut que les trois pouvoirs principaux soient séparés et indépendants. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L'exécutif, c'est le gouvernement.
Ouais.
Le législatif, c'est tous les 125 députés. Et le judiciaire, évidemment, c'est les juges, les polices, etc.
Exact.
Et ces trois-là, il ne faut pas qu'ils se... Il ne faut pas qu'ils se parlent entre eux autres. Ils ne sont pas de connivence. Ils vont se parler pour faire faire fonctionner l'État, oui, mais l'exécutif ne peut pas dire au juge « Hey, là, lui, il fallait condamner parce que je ne l'aime pas. Okay? » La séparation des trois pouvoirs. Mais le quatrième pouvoir non officiel, c'était les médias, qui étaient censés être le chien de garde et poser des questions difficiles. Mais là, à cause... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les 20-25 dernières années. C'est peut-être juste une question économique qu'ils se sont sentis obligés d'être plus amis, plus fins avec justement les ministres et le gouvernement pour avoir des choses à dire, soit dans le journaux, à la télé ou peu importe. Mais est-ce qu'ils font réellement le même travail qu'ils faisaient il y a 20-25 ans?
Je pense pas.
On le voit par la méfiance des gens, c'est non?
Puis tu sais, j'ai l'impression, je suis pas beaucoup la politique américaine. Je lis un peu, je regarde en surface, mais j'ai l'impression que Donald Trump a joué un rôle assez, tu sais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, avec ses histoires de fake news. Les gens ont commencé à s'intéresser au travail des journalistes. Puis tu sais, les journalistes sont bien fâchés, mais c'est parce que peut-être que vous avez couru après, parce que c'est un individu comme ça qui arrive, qui se présente pour être président des États-Unis, qui réussit à gagner. Puis il continue à dire à des journalistes « fake news ». Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça a fait en sorte qu'on a regardé un peu plus le travail des journalistes. Puis avec l'histoire de la pandémie, on s'est aperçu qu'il y avait tout le monde travaillait ensemble. Là.
Écoute, lui, il a crevé cet abcès-là. Et puis, il y a, dans l'histoire, même plus que politique, là, dans l'histoire de l'humanité, là, il y a un avant puis un après Trump. Là. Avant Trump, il se passe quelque chose. Après Trump, il se passe autre chose. C'est-à-dire que là, maintenant, les gens ont une méfiance envers les médias qui est, je pense, relativement saine. C'est pas dire qu'il faut toujours se méfier et dire «
Est-ce que les médias, c'est supposé être le chien de garde de la démocratie. »
Ça l'était. Ça l'était pendant longtemps. Moi, quand j'étais jeune, là, j'écoutais Bernard de Rome à la télévision. Je mettais pas en doute ce qu'il disait.
Non.
Mais là, aujourd'hui, si j'allume la télévision puis j'écoute les nouvelles, j'ai une certaine dose de doute.
Ouais. Mais moi, j'y crois encore, tu sais. Puis à un moment donné, Éric Duhaime est venu dans ma première semaine. Éric Duhaime était là, puis il me dit, tu sais, moi, je représente 500 000 personnes. Je dois être à l'Assemblée nationale. Moi, je dis, moi, je suis un gars de droit. Tant aussi longtemps que ça ne changera pas, tu n'as pas d'affaires à l'Assemblée nationale. Même si j'aime beaucoup Éric, même si j'ai les idées du Parti conservateur du Québec, il y en a certaines au niveau économique qui m'intéressent beaucoup. Mais si j'avais dit, oui, Éric, tu as raison, mais j'aurais été à l'encontre de ma propre pensée. Je me serais senti mal. Tu comprends? Je me sentirais pas bien. Je fais ce métier-là pour les auditeurs. Je fais pas ce métier-là pour faire passer mes propres idées. Quand je vois la Fédération des journalistes, des jeunes journalistes du Québec qui se présentent à FPJQ au Congrès, puis ils disent, ben nous, on veut du journalisme militant. Je me dis, esti, on est-tu loin de ce qu'on est supposé d'être, c'est-à-dire les gardiens de la démocratie?
On le voit en France, en Europe, en général. On le voit aux États-Unis aussi. De plus en plus, le journalisme se transforme vers le journalisme citoyen, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. En passant par le journalisme citoyen, il va y avoir des bons et des moins bons. Mais ce que ça force, là, c'est que ça force les gens maintenant. Avant, c'était facile. T'écoutais Bernard de Rome, t'écoutais la télévision, t'avais l'information que t'avais besoin, tu le croyais, il était crédible, merci, bonsoir, ça vient de s'éteindre. Aujourd'hui, les gens sont obligés de se poser des questions. Tu as besoin de plus qu'une source. Je veux dire, c'est une des premières affaires que tu apprends quand tu étudies le journalisme à l'université, tu as besoin de plus qu'une source. Il y a une vieille phrase qui dit, si ta mère t'aime, là, va chercher une deuxième confirmation.
Oui, exact. Mais de préférence, il faut que tu aies deux confirmations, puis ces individus-là ne doivent pas se côtoyer.
Et voilà. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que ça dit sur les journalistes? Tu sais, mettons, les journalistes, ils disent, ouais, mais si on est trop raide envers les politiciens, ils ne viendront plus. Ouais, mais qu'est-ce que ça dit sur le politicien? Il n'est pas là pour... faire plaisir à un média ou à un autre média, il est là pour répondre aux questions des élus qui l'ont mis là.
Exact.
Moi, là, je suis raide dans la... Demain matin, j'interview un politicien. Puis là, je suis raide en masse avec. Là. Puis après ça, il me dit, moi, je ne reviendrai plus jamais ici. Là. Ben, je vais dire, ben, c'est bien correct, mais on va le dire en ondes à tous les jours que tu ne viens plus parce que tu as peur de répondre aux questions. Si tu n'es pas capable de répondre aux questions, tu n'as pas d'affaires en politique. C'est pas que tu vas toujours avoir la bonne réponse. Non, non. Les politiciens sont des humains. Ils vont avoir des bonnes réponses. Des fois, ils vont en échapper une. Mais tu l'échappes, tu dis, OK, là, je me suis fourré là-dessus. On va reprendre, on recommence.
Okay? Exact.
Quand les erreurs sont relativement pas graves. Là, tu sais, je ne parle pas qu'il y a du monde qui meurt ou quoi que ce soit. Là. Mais admettre son erreur, puis venir... Tu te présentes en politique, tu as la confiance des élus. Un comté, ça peut être entre 30 000 et 50 000 personnes qui ont dit, nous, là, le principe de la démocratie représentative, c'est qu'on ne peut pas être 8 millions assis à l'Assemblée nationale pour prendre des décisions. On remet notre vote dans les mains d'une personne qui dit, toi, là, tu fais partie d'un parti ou même peut-être être indépendant, on croit de la manière dont tu penses, va à l'Assemblée gérer de la manière dont on aimerait que tu gères. Mais tu es là pour répondre à nos attentes. Ce n'est pas l'inverse. Alors, le politicien qui dit, ben là, moi, je viens plus ici pour répondre aux questions parce que les gens sont pas fins. Ou Fitzgibbon qui dit, ça fait 5 ou 6 blâmes à l'éthique que j'ai, c'est pas grave, on en voit 10 d'autres.
Ouais.
Comment ça qu'il n'y a pas un journaliste qui dit, ouais, mais un instant, non, ce ne sera pas comme ça.
Ouais.
Puis là, ben, on va arrêter de vous poser des questions à vous, on va poser des questions à la police, on va poser des questions à l'UPAC, on va poser des questions au premier ministre. Dire, est-ce qu'il est compétent, ce monsieur Fitzgibbon-là? Je te pose une question rhétorique. Là. Tantôt, on parlait de l'intelligence puis versus la compétence, versus qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là. Il est peut-être compétent dans plein de choses. Mais dans le rôle qui est là, c'est une question que les gens peuvent se poser.
Sébastien, on va manquer de temps pour parler de tous les sujets qu'on voulait aborder. J'avais pris énormément de notes, comme tu peux voir, comme d'habitude. Je veux parler d'un dossier qui, en fait, que tu me ramènes souvent, que je pense que tout le monde devrait avoir à cœur pour les prochaines années. Puis je souhaite qu'un jour, il y ait un politicien, un gars comme toi, qui décide de se lancer en politique puis dise, moi, là... Tant et aussi longtemps que ça, cette loi-là, ça ne sera pas changé, ben je ne vous lâcherai pas, je vais vous achaler. Mm-hmm. Sébastien, tu es un maudit achaleux pour ce qui est du don d'organes. Oui. Je te félicite pour la job que tu fais. J'étais à la radio, tu m'en parlais, tu étais politicien, tu voulais en parler, puis tu me parleras de ça dans les prochaines secondes. Oui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le don d'organes, il faut que je signe encore ma carte d'assurance maladie, il faut que j'avertisse tout le monde dans ma famille pour dire, s'il m'arrive de quoi, je veux donner mes dons d'organes. T'as-tu quelque chose à dire contre ça? Non, OK, c'est beau. Fait que s'il m'arrive de quoi, je veux donner mes dons d'organes. Qu'est-ce qui fait qu'on est encore rendu là plutôt qu'un don d'organes présumé?
C'est toujours une question de société. On n'en parle pas assez. Les médias, à leur honneur, il y a certains médias là, qui en parlent de plus en plus et la fréquence s'accélère. Mais c'est un peu comme le mourir dans la dignité. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. C'est surtout Mme Yvon. Qui a porté ce dossier-là, qui a forcé une discussion public là-dessus. Et puis, ça n'a pas été facile. Mais là, on l'a aujourd'hui, comme je disais tantôt. Maintenant que c'est là, il n'y a plus personne qui leverait la main pour l'enlever. Mm-hmm. Le don d'organes, c'est qu'on n'en parle pas assez. C'est, à mon avis, une des façons de mourir les plus injustes. Parce qu'au Québec, là, selon les dernières stats que j'ai regardées, le Stade Québec, c'est environ 80 000 naissances par année, 65 000 décès. À la fin de 2021, il y avait 888 personnes sur la liste d'attente du don d'organes. En moyenne, là, c'est pas une moyenne, mais en 2021, c'est 34 qui sont décédés sur la liste d'attente. Je dis pas que si on avait le don d'organes présumé, on les aurait tous sauvés. C'est certain qu'on en aurait sauvé plus. Okay? Les gens décèdent, c'est un fait. Il y a des organes qui se perdent. Il y a quelques semaines, Radio-Canada a fait un très bon reportage avec l'émission Enquête là-dessus pour dire que c'est pas nécessairement le manque d'organes qui fait que les gens décèdent ou que le temps d'attente est long sur les listes d'attente, mais c'est aussi le niveau du référencement. C'est-à-dire qu'entre le donneur et le receveur, la mécanique administrative entre les hôpitaux n'est pas facile. Il n'y a pas rien qui a été établi là, de façon comme une mécanique automatique. Il y a des endroits qui fonctionnent mieux que d'autres. Et puis, comme je te disais, moi, je suis pas le plus grand. Je veux dire, il y en a d'autres avant moi qui ont proposé ça, puis il y en a d'autres après moi qui l'ont proposé aussi, le don d'organes présumé. Il y a au moins 18 pays, je me rappelle bien,